Notre invité, Gérald Bronner, est sociologue. Il s'est beaucoup d'ailleurs intéressé à la manière dont Internet pouvait modifier notre manière d'appréhender le monde. Il publie aujourd'hui un pamphlet avec Étienne Géhin, Le danger sociologique. Je sais que vous dites que ça n'est pas un pamphlet, une série d'arguments posés, parce que bien souvent, les auteurs de pamphlets essayent un peu d'atténuer la charge. Mais avant de parler de ce que vous reprochez à vos chers confrères, y a-t-il dans ce que vient de dire Frédéric Eric Seitz sur l'utilisation du Facebook Live, l'utilisation donc d'Internet, aujourd'hui par le politique, une manière effectivement de modifier notre perception de ces politiques?
Bah oui, je crois que Frédéric Seitz l'a excellemment dit. D'ailleurs, l'illusion qui pourrait naître de ces... je trouve tout à fait légitime que le politique se saisisse des nouvelles technologies, évidemment, pour communiquer. Mais l'illusion pourrait être qu'il n'y a pas d'éditorialisation du fait qu'on accède directement au réel. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une éditorialisation inspirée par les intérêts des acteurs, en l'occurrence les politiques, et qu'on passe au-dessus de l'éditorialisation qui était traditionnellement faite par les professionnels de l'information, que sont les journalistes, qui ne sont pas sans on peut leur adresser toutes sortes de reproches, mais personnellement, je préfère que cette éditorialisation soit faite par les journalistes plutôt que par des porteurs d'intérêts. Et j'ajouterai seulement ceci, puisque on pourrait se dire dans le fond, c'est pas très grave, puisque on entend les versions de tout le monde, donc c'est pas très grave. Là, on voit la version de Ruffin, on voit la version de Macron. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les chambres d'écho, les echo chambers. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, en tant qu'internaute, à aller voir seulement la version des faits, des individus qui nous intéressent, avec lesquels on est d'accord. Ce que j'appelais dans la démocratie des crédules, le biais de confirmation. Alors, voyez, Guillaume, même sur ce point, on a quand même besoin des sociologues.
Frédéric Seitz.
Oui, il y avait eu même un exemple qui avait été l'extrême de ce mécanisme de communication, c'est quand Donald Trump était venu en France, et pour le coup, la visite au tombeau de Napoléon avec Emmanuel Macron avait été suivie uniquement par le Facebook Live présidentiel, donc par un collaborateur de l'Élysée qui filmait et retransmis sur les chaînes d'information en continu. Alors comme ça, on peut se dire, bon, après tout, c'est du détail, mais si par inadvertance, il y avait eu des manifestants, il y avait eu une interpellation, il y avait eu quelqu'un qui était intervenu, on peut se demander ce qu'aurait fait la personne qui tenait le Facebook Live. Est-ce qu'elle aurait filmé l'échange ou est-ce qu'elle aurait pudiquement détourné le regard, voire est-ce qu'elle aurait arrêté la transmission? La réponse est un peu dans la question.
Gérald Bronner.
Oui, mais absolument. Quoi. Je pense que tout de même, la formation et le traitement de l'information est un des fondements des sociétés démocratiques. Les citoyens sont censés être informés. Il est évident que la structuration du marché de l'information a un impact sur l'atmosphère, on va dire, démocratique.
Il y a deux thèses, justement, en matière d'atmosphère démocratique, comme vous dites, au sujet d'Internet. La première considère qu'on a affaire à un ensauvagement et que les réseaux sociaux sont, en quelque sorte, la chienlit transposée à l'ère électronique. Et puis, l'autre thèse consiste à dire qu'au contraire, on a un moyen de communication et surtout d'information qui permet à l'humanité d'être autrement plus éduquée qu'hier. Votre opinion à ce sujet ?
Mon opinion est que les deux sont un peu vrais, mais malheureusement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une plus grande disponibilité de l'information en général, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre une information qui est disponible et une information qui est visible. Or, ce qui est en train de se dérouler sur Internet, c'est une bataille constante pour la visibilité donnée à certaines informations. Et cette visibilité, elle est dépendante en partie de la motivation des acteurs sur ce marché de l'information. Et malheureusement, les plus motivés sont ceux qui sont porteurs d'intérêt ou éventuellement actuellement de radicalisation, et c'est ainsi qu'on a vu des idées se diffuser qui existaient auparavant dans des espaces de radicalité qui sont devenus maintenant beaucoup plus acceptés par l'opinion. Prenez tout simplement l'exemple de la méfiance par rapport aux vaccins, un exemple que je cite souvent. 9% des Français se méfiaient des vaccins au début des années 2000, ils sont plus de 40% aujourd'hui, et je trouve ça très inquiétant.
Pourquoi
c'est très inquiétant, cette méfiance vis-à-vis des vaccins? Eh bien parce que un certain nombre de maladies, si elles n'ont pas une couverture vaccinale optimale, par exemple la rougeole, s'il n'y a pas 95% de la couverture vaccinale, on voit ressurgir la rougeole avec des cas de mort tout simplement chez les enfants. Ça, ce sont des cas qui sont documentés.
Alors ça, c'est effectivement l'argument qui est invoqué par les partisans des vaccins, sans que l'on puisse, enfin en tout cas sans que j'ai quoi que ce soit à dire à ce sujet. Néanmoins, ce que l'on voit plus généralement, Gérald Bonnet, c'est que Internet a permis un certain nombre de discours qui étaient jadis des discours marginaux de prendre de plus en plus d'importance. On a vu par exemple avec l'élection de Donald Trump, avec également la récente élection en France, un grand nombre de théories baptisées fake news, informations truquées grossir. Est-ce que, du coup, il faut perdre foi dans la rationalité de l'être humain, dans sa logique ?
Non, le problème, c'est qu'il existe une face obscure de la rationalité, c'est-à-dire que, évidemment, on ne parle pas là de rationalité objective du mathématicien ou du logicien ou quelque chose comme ça, mais en général, et c'est le drame, les individus, même quand ils adhèrent à des idées folles, ne sont pas fous, n'est-ce pas ? Et donc, reconstruire les raisons d'un individu, c'est pas forcément lui donner raison, hein, deux opérations différentes. Mais je pense qu'en effet, le travail du sociologue, parce qu'on parle beaucoup de sociologie, c'est de reconstruire l'univers mental d'un individu pour éclairer au moins une partie de ses endossements cognitifs, de ses croyances, de ses choix.
Endossements cognitifs ?
C'est-à-dire ses adhésions mentales, le fait d'adhérer à l'idée, par exemple, que le vaccin est dangereux. Bah, je trouve que c'est effectivement en soi une idée dangereuse, mais cela ne m'empêche pas d'essayer de reconstruire les raisons des individus qui aboutissent à cela. Je ne dis pas qu'ils sont stupides, évidemment. Il ne faut pas confondre la crédulité et la stupidité. Et c'est le travail du sociologue de faire un barrage assez ferme entre l'impression que les gens qui n'ont pas les croyances, qui sont les miennes, sont idiots ou méchants, et la réalité de leur vécu mental. Et pour cela, justement, ce type de réalité ne peut pas seulement s'éclairer avec des facteurs sociaux, pour revenir à l'introduction de notre débat. On a besoin aussi, pourquoi pas, des sciences cognitives, de la psychologie cognitive, et même, pourquoi pas, je vais être politiquement correct, des neurosciences, pour expliquer un certain nombre de phénomènes de croyances.
Mais finalement, en vous écoutant, puisque vous êtes confiant en la sociologie, en tout cas, dans votre manière de pratiquer la sociologie, Gérald Bronner, j'en viens à me demander si la charge que vous portez, elle n'est pas tout simplement contre un certain nombre de sociologues qui se situeraient, par exemple, dans la suite de Pierre Bourdieu. On va écouter d'ailleurs Pierre Bourdieu.
On pense que dévoiler, c'est dénoncer. Et un des problèmes, c'est qu'effectivement, les choses que la sociologie dévoile sont soit implicites, soit refoulées. Et le simple fait de les dévoiler a un effet de dénonciation. Et ceux qui lisent ou entendent parler de ce qui est dévoilé sont atteints dans des choses souvent très, très profondes, qu'ils ne veulent pas savoir. Pas seulement qu'ils ne veulent pas qu'on sache, qu'ils ne veulent pas savoir. Et du coup, ils mettent dans l'intention du sociologue quelque chose qui n'y est pas. C'est une intention de dénonciation.
Je vais le dire brutalement, Gérald Bronner, est-ce que finalement votre problème, ce n'est pas tout simplement que vous considérez que vous ne vous reconnaissez pas dans une sociologie dite de gauche, si ça existe, une sociologie de gauche ?
Ça ne me poserait pas de problème dans l'absolu, je me considère moi-même comme un homme de gauche. Ce qui me gêne effectivement, c'est qu'on attribue à une discipline une coloration politique. N'est-ce pas ? Pourquoi la sociologie devrait-elle de gauche ou de droite du reste ?
Pour Bourdieu, par exemple, la sociologie avait une vocation critique, c'est-à-dire qu'elle était là pour contester un ordre existant, un ordre qui lui semblait injuste. L'impression que vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde.
Tout à fait, mais alors c'est pas du tout ce que dit Bourdieu dans cet extrait, avec lequel je me sens relativement d'accord d'ailleurs. En effet, la sociologie est là, comme toutes les sciences, pour dévoiler un certain nombre de faits avec une méthode. Et effectivement, ce dévoilement peut choquer nos intuitions et peut, dans certains cas, aboutir à un déni de réalité en quelque sorte. Mais c'est vrai dans toutes les sciences, c'est vrai dans toutes les disciplines. Le darwinisme n'est pas facilement accepté. Mais quand vous acceptez de colorer une science politiquement, ça peut être très dangereux. Souvenez-vous par exemple de l'affaire Lysenko, n'est-ce pas, dans les années 40. Alors l'affaire Lysenko, je le rappelle, c'est simplement un agronome soviétique de l'époque qui considère, pour le faire très vite, que la génétique est une science bourgeoise. Et il a arrivé à éradiquer la génétique en Union soviétique, avec des morts, avec des gens qui ont été, disons, emprisonnés et qui en sont morts, et avec cet argument que, justement, cette science génétique était une science plutôt de droite que de gauche. Alors, évidemment, on n'est pas dans ce genre d'excès.
Bah oui, parce que j'allais vous demander qui étaient les lysenkistes aujourd'hui dans le domaine de la sociologie.
Je fais pas, comparaison n'est pas raison. Je veux simplement dire qu'il y a un danger potentiel à vouloir politiser une approche qui doit se fonder sur le vrai et le faux et non pas sur le bien et le mal.
Mais est-ce que vous pensez que c'est si simple que cela ? C'est-à-dire que l'on peut mettre son idéologie de côté pour juger des questions qui sont bien souvent des questions sociales ?
Mais en fait, personne ne demande à quiconque de devenir un individu neutre. Si vous vous souvenez de l'injonction de Weber, la neutralité axiologique, qui est en fait
un des grands
fondateurs de la discipline. En fait, c'est une assez approximative traduction, parce qu'en fait, ça veut dire liberté par rapport aux valeurs. Max Weber ne doutait pas du fait que nous soyons des individus porteurs de valeurs. Moi-même qui vous parle, j'ai mon idéologie, mes croyances, etc. Mais précisément, la méthode scientifique, c'est ce qui vous permet permet d'approcher le plus objectivement possible, parce que l'objectivité totale est impossible, d'un certain nombre de faits. Si vous ne le faites pas, ben la tentation, c'est d'aller seulement chercher, comme le font les internautes sur Internet, hein, le biais de confirmation, c'est-à-dire d'aller chercher les faits qui vont aller dans le sens de vos compulsions idéologiques. Et malheureusement, en effet, la discipline... Alors, contrairement à ce qu'annonçait Bourdieu dans cet extrait, elle ne fait pas seulement que dévoiler ce qui serait une œuvre tout à fait salutaire en matière de science, mais elle va un peu plus loin. Elle est dans une posture de dénonciation. Et pourquoi le fait-elle ? Ben parce qu'elle est contaminée dans cette espèce de volonté de dévoilement par un biais. Vous voyez, c'est là où...
Mais non, mais c'est justement où beaucoup de gens ont des doutes. C'est-à-dire, on considère par exemple qu'on a les sciences dures, la physique, les maths, et puis les sciences molles, par exemple la sociologie. Une manière assez polie, finalement, de considérer que la sociologie n'est pas une science, Gérald Bronner.
Mais c'est une erreur. Je pense que la sociologie a une vocation scientifique, justement. Elle n'a pas pour vocation d'être un sport de combat. Pour rappeler une phrase de Bourdieu, qui est souvent d'ailleurs prise hors de son contexte en réalité. Mais par contre, il faut reconnaître que certaines méthodes de la sociologie ne sont pas semblables aux méthodes qu'on peut utiliser en physique. Par exemple, je ne peux pas faire un entretien, n'est-ce pas, avec une pierre ou un nuage. Et donc, je peux le faire en sociologie. Je peux accéder à l'intentionnalité des individus qui vont m'intéresser, dont l'action va m'intéresser. Mais surtout, ce qui caractérise, et c'est ce que nous défendons dans notre livre, Le danger sociologique, les phénomènes sociaux, c'est leur très haute imprédictibilité. Et en fait, ce que la sociologie ne peut pas faire, et d'ailleurs ce qu'elle n'a jamais vraiment prétendu faire, c'est aboutir à des modèles prédictifs. C'est-à-dire, je ne peux pas, en toute probabilité, savoir ce que vous, Guillaume Herner, allez devenir dans 10 ans, ce que la société va être dans 10 ans.
Pourtant, vous avez des statistiques, vous avez des régularités observables.
Eh bien oui, mais justement, c'est en cela que les modèles déterministes sont beaucoup trop simplistes pour rendre compte du réel. C'est tout ce que nous disons, c'est pour ça que c'est pas du tout un pamphlet, notre livre. Ce que nous expliquons dans notre livre, c'est que ces modèles déterministes peuvent rendre des comptes descriptivement, ils peuvent rendre compte descriptivement du réel, mais ils sont faiblement explicatifs.
Bon, ben, il y a quand même quelque chose qui est massif en France, par exemple les inégalités scolaires.
Oui.
Il y a une possibilité de prédire non pas le destin d'un individu, mais si on en prend plusieurs, si on utilise des statistiques, eh bien on sait qu'un enfant d'ouvrier a moins de chances d'intégrer une grande école qu'un enfant de cadre. Mais ça, absolument. C'est une prédiction, c'est Bourdieu qui l'a faite.
Alors d'abord, c'est pas tout à fait seulement Bourdieu qui l'a faite, mais en effet, il a fait un travail remarquable sur la révélation des asymétries sociales. Mais vous savez, je veux dire, il y a des livres même qui datent du 19e siècle, je pense à Gobelot notamment, hein, qui avait pointé un certain nombre d'asymétries sociales. Donc, personne, aucun sociologue ne conteste évidemment l'existence de ces asymétries sociales, bien entendu. Mais prenez simplement les différences justement de chances. L'inégalité des chances, d'ailleurs, un autre sociologue, Raymond Boudon, y avait consacré un livre avec une interprétation un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que par exemple les enfants de l'immigration ont tendance à avoir moins de chances que les autres de réussir dans le cycle scolaire. Voilà, donc vous avez votre explication toute faite, c'est le milieu social économique, si vous avez des carences économiques, culturelles, etc. Ah oui, sauf qu'il y a une exception notable à cette règle, n'est-ce pas ? Ce sont les enfants de l'immigration de l'Asie du Sud-Est. Et ça, c'est valable en France, mais c'est valable dans tous les pays du monde. À tel point qu'aux États-Unis, d'ailleurs, il y a des formes de discrimination négative pour les étudiants d'origine asiatique. Et ceux qui ont travaillé sur cette question, il y a peut-être plus de choses, mais j'ai relevé deux papiers. Par exemple, nous avons relevé deux papiers avec Géant dans notre livre, bah, montrent qu'en fait, à l'intérieur de ces familles, il y a d'autres types de récits que les récits déterministes. C'est-à-dire, par exemple, des récits qui sont tout aussi idéologiques, hein, mais qui sont fondés sur la méritocratie, etc. Et on voit là que il y a une différence de réussite scolaire. Donc vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Ce que l'on peut craindre, c'est un autre aspect du danger sociologique, c'est que ces récits déterministes, s'ils se diffusent et s'ils sont pris trop au sérieux par les acteurs auxquels ils s'adressent, eh bien deviennent des prophéties autoréalisatrices.
Prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire
des phénomènes sociaux qui se réalisent parce qu'on les croit vrais. C'est-à-dire si vous croyez que votre banque, par exemple, va faire faillite parce qu'elle est plus solvable, si tout le monde retire son argent, bah, la banque va en effet faire faillite. C'est une prophétie autoréalisatrice.
Qu'est-ce que c'est qu'une science qui ne serait pas déterministe ? Justement, l'intérêt de la physique, c'est qu'elle est déterministe. Peut-être que quand vous dites que la sociologie ne l'est pas déterministe, c'est juste une manière polie de dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui vous résistent dans votre compréhension de l'époque, Gérald Bronner.
D'abord, Guillaume Herner, vous vous trompez. Il y a une partie de la physique très importante qui n'est pas déterministe. C'est justement une des grandes révolutions, hein, une des trois grandes révolutions en sciences physiques, ce qu'on appelle les sciences du chaos, qui se fondent précisément sur une vision non déterministe d'un certain nombre de phénomènes. Et pourquoi les phénomènes sociaux qui sont parmi les plus complexes de l'univers observable ne seraient pas pas eux aussi régis par des phénomènes non déterministes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les approcher avec méthode, mais ce qui veut dire que si on les approche avec des modèles trop simplistes, on passe à côté de son sujet.
Écoutez, puisque vous parlez de déterminisme, justement, on vous a préparé un petit cadeau, Gérald Bronner. Il me semble qu'une consœur à vous, Elisabeth Tessier, avait obtenu un doctorat de sociologie pour la première fois sur France Culture dans les matins, un horoscope.
Bonjour à toutes et à tous et bon anniversaire à vous qui êtes nés le 4 octobre. Le soleil est en balance, voyons tout de suite ce que les astres vous réservent aujourd'hui. Bélier, vous avez le toupet, le culot qui attire, alors n'hésitez pas et osez montrer de quoi vous êtes capable.
Bon, on va épargner la suite à nos auditeurs, Gérald Bronner.
Oui,
tout de même, il y a une question qui se pose. Vous êtes le représentant d'une école qui pense que les êtres humains sont rationnels. Et depuis le début de cet entretien, on a vu toute une série de manifestations d'irrationalité des personnes, comme par exemple le fait de s'intéresser à son horoscope. Pardon pour les auditeurs qui le liraient chaque matin. Mais enfin, est-ce que là, on peut considérer, malgré tout, encore une fois, que les gens ont leur raison lorsqu'ils lisent leur horoscope ?
Certainement que oui. D'abord, je ne dis pas que les êtres sont rationnels, encore une fois, dans le sens objectif du terme. Je dis qu'ils ont un univers mental qu'on peut reconstruire et qui a sa logique. On a sa logique quand on regarde l'horoscope. On n'y croit pas tout à fait. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais le lisent quand même et préfèrent tant qu'à faire qu'il soit positif plutôt que négatif. Il y a une volonté, effectivement, de réguler l'incertitude que constitue l'avenir par des signes qui pourraient nous être envoyés. Mais cette histoire d'astrologie est très intéressante, si vous me permettez de faire une brève digression sur cette question, car il y a une enquête. Pour revenir sur les modèles déterministes, dans le fond, l'astrologie propose aussi un modèle déterministe. Elle affirme que, comme elle vient de le dire, par exemple, les béliers, vous avez du culot, c'est-à-dire qu'elle affirme que votre personnalité est en partie déterminée par la configuration stellaire du moment de votre naissance. Or, il y a eu une enquête qui a essayé de voir si, selon votre signe astrologique, vous aviez en effet des caractéristiques particulières psychologiques. Est-ce que vous étiez, par exemple, plutôt névrosé, etc. Et la grande surprise a été que oui. Alors évidemment, pour le rationaliste que je suis, c'est d'abord un peu déstabilisant. Mais quand on allait un peu plus loin dans la poursuite de cette enquête, de quoi on s'est-on aperçu ? C'est qu'en fait, les tests avaient été passés auprès de centaines d'élèves d'une école d'astrologie. Donc, ils croyaient à l'astrologie, ça veut dire qu'ils avaient endossé le récit déterministe. Et alors, évidemment, comme tout scientifique devrait le faire, il a fait des tests de contrôle, le psychologue en question, et il a fait des tests avec des enfants qui n'avaient pas entendu parler de l'astrologie, et aussi avec des personnes qui ne croyaient pas ou qui n'avaient pas entendu parler de l'astrologie. Et là, il n'y avait plus aucune corrélation. Donc, méditons, en fait, la conclusion et la morale, en quelque sorte, de cette histoire. Ça veut dire que quand vous endossez un récit déterministe, vous pouvez, à votre corps défendant, y compris changer votre personnalité, puisqu'en effet, les lions vont se conformer à la description, quand on y croit, que l'on fait du lion ou du bélier. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout anodin la diffusion de ces modèles déterministes.
Gérald Bronner, dans Danger sociologique, vous expliquez avec votre collègue Étienne Géhin qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de pratiques parmi vos confrères sociologues qui vous paraissent insuffisantes, critiquables. Il y a aussi quand même des nouveautés dans le domaine des sciences sociales, les études de genre par exemple. Oui. Elles produisent des théories, elles produisent des connaissances qui sont des connaissances nouvelles sur des domaines qui étaient hier passés sous silence.
Mais absolument. Les sciences sociales produisent beaucoup de connaissances, la théorie des réseaux, sociologie économique, etc. La reconnaissance des asymétries sociales, etc. Les phénomènes de distinction. Et en effet, les théories du genre montrent que, les études de genre, qui sont à mon avis aussi une théorie, montrent que, l'identité sexuelle est pour partie une construction sociale, ce qui est vrai. Là où ça pose problème, si vous voulez, c'est pour les expressions les plus radicales de ces études de genre, qui deviennent alors des théories, où il s'agit de naturaliser les phénomènes, de dénaturaliser, pardon, les phénomènes sociaux.
Expliquez-moi pour qu'on comprenne bien comment on passe, pour vous, d'études de genre, où là, il s'agit d'étudier finalement la manière dont se comportent différemment ou pas, d'ailleurs, les hommes et les femmes, à ce qu'on entend qualifier de théorie du genre. Certains disent que cela existe, d'autres que cela n'existe pas.
Si vous voulez, le fait que l'identité sexuelle soit en partie construite socialement est une évidence. Elle mérite d'être illustrée. C'est ce que font les études de genre. À partir de quand on passe vers une théorie? Parce que l'intégralité des études de genre tend justement à la dénaturalisation de l'identité sexuelle. Et donc, le danger dans ce cas de figure, il est simple, c'est celui que nous pointons aussi dans notre livre, puisque nous y consacrons quelques pages, c'est de refuser le dialogue avec la biologie, et en particulier la biologie du cerveau. Et donc, en fait, on a là une discipline qui, du coup, s'enferme sur elle-même et qui refuse le travail que font toutes les autres sciences, c'est-à-dire le travail interdisciplinaire. C'est tellement vrai que mes collègues Franck Ramus, par exemple, et Nicolas Gauvry, ont montré dans le dialogue qu'ils ont eu avec Madame Vidal, qui fait référence...
Madame Vidal, la nouvelle ministre. Alors, dans ce cas-là, il va falloir me dire qui est Madame Vidal.
C'est une spécialiste des sciences du cerveau et qui est très citée précisément par les sociologues qui font des études de genre, parce qu'elle semble avancer sur l'idée qu'il n'y a pas de différence sexuée du cerveau. Mais Ramus et Gauvry estiment, quant à eux, je ne suis pas spécialiste de cette question, que cette annonce, elle est surtout faite dans l'incompétence, c'est-à-dire parce qu'elle n'a pas lu ou elle fait semblant de ne pas avoir lu une partie de la littérature scientifique sur ce point. Donc c'est ça le drame, si vous voulez.
On a entendu vos critiques. Quelles sont les pistes, cette fois-ci, qui vous paraissent les plus intéressantes pour comprendre la société ou pour faire une sociologie qui vous paraîtrait être une sociologie bonne et utile,
Gérald Bronner? Tout simplement, d'abord, je suis pour la pluralité scientifique. Je ne souhaite pas imposer mes sensibilités à l'ensemble de la discipline. Évidemment, ce serait ridicule et puis ce serait déjà un échec par avance. En revanche, ce à quoi on pourrait réfléchir collectivement, c'est la régulation du marché des idées. Vous savez, finalement, une science...
La régulation du marché des idées.
Oui, une science, ce n'est pas autre chose qu'un travail social pour finalement classer, pour hiérarchiser un certain nombre de propositions. Par exemple, la Terre est plutôt ronde que plate, vous voyez. C'est un classement entre certaines propositions intellectuelles. Donc, ce que fait la science, c'est normalement sélectionner de façon drastique ces idées. Alors ça suffit pas, puisque par exemple, chaque année, on retire des articles de la publication. Par exemple, en 2011, il y a eu 400 articles qui ont été retirés du Web Science. Alors on pourrait trouver ça inquiétant, mais moi je trouve pas ça inquiétant, je trouve ça très rassurant. Ça veut dire que la science, elle est capable de s'auto-réformer, de s'auto-critiquer. Mais est-ce que vous savez s'il y a eu un seul article qui a été retiré en sciences sociales? Voilà. Vous ne le savez pas, moi non plus. Je dis pas que c'est pas le cas, mais... Je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup, vous voyez. Et je pense que c'est un symptôme très inquiétant. C'est un symptôme de non-cumulativité. Donc, ce que l'on pourrait faire collectivement, c'est réfléchir au processus de sélection des idées. De temps en temps, on le fait. Vous avez rappelé la thèse, la célèbre thèse d'Elisabeth Tessier, par exemple, qui était calamiteuse pour la discipline.
Et là, oui, il faut rappeler qu'elle a obtenu un doctorat de sociologie dans des conditions qu'on imagine controversées.
Absolument. Très controversée, mais ça c'est très positif parce qu'effectivement, la réaction à peu près unanime de la profession était une réaction rationaliste seulement sur toute une série d'autres sujets. Et nous en donnons donc quelques exemples dans nos livres. Et il y a des traces métaphysiques, de la présence presque métaphysique dans notre discipline. Et nous n'avons pas encore fait le ménage en quelque sorte. Donc il ne s'agit pas
faire
de
le
dire...
ménage.
Oui, faire le ménage comme l'ont fait les autres disciplines. Par exemple, en biologie, par exemple, on a évacué les thèses lamarckiennes. Non, la nature n'a pas d'intention. Non, il n'y a pas de fluide vital. Donc si vous voulez, ça consiste à faire le balai, à débarrasser une discipline d'un certain nombre d'entités conceptuelles encombrantes. La sociologie, tout simplement, elle n'a pas fait ce travail. Donc, il ne s'agit pas de jouer Bourdieu contre Boudon ou Boudon contre Bourdieu. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit
un sociologue contre un autre.
Voilà, il s'agit de jouer la science contre l'idéologie. Et c'est le moment de le faire parce que notre discipline est en danger.